Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, la semaine dernière, nous avions commencé à feuilleter un singulier manuscrit sur parchemin, le papyrus Scotsen, qui est conservé à Princeton, et qui, jusqu'à ce jour, est le plus complet livre d'école qui nous soit parvenu, hein, il est en copte, et dont le caractère exceptionnel et le fait qu'il soit, je vous l'ai déjà dit, toujours inédit, m'ont incité à le mettre au cœur de ces cours sur l'enseignement copte, et donc à continuer à le feuilleter en le regardant plus en détail. Nous avions vu qu'après une section consacrée aux syllabes et aux mots, dits syllabiques et tétrasyllabiques, ce qui ne nous éloigne pas trop de ce que nous connaissons avec les manuels grecs, eh bien, ce livre offrait une nouveauté avec la liste des noms des lettres coptes. Et nous ne sommes pas au bout de nos surprises avec les sections suivantes de ce manuel que nous allons regarder aujourd'hui. Alors, les deux pages qui suivent la liste des noms des lettres grecques forment une section qui, elle aussi, est sans parallèle dans les manuels d'école grecque. Alors, voilà cette section. Elle commence par une première sous-section consacrée à ce qu'on appelle techniquement les nomina sacra, autrement dit, ces mots qui, du fait de leur emploi fréquent dans les textes chrétiens, sont abrégés d'une façon tout à fait particulière. C'est-à-dire que, contrairement aux abréviations qu'on utilise aussi bien dans les textes documentaires, aussi bien en grec qu'en copte, où on abrège la finale, eh bien là, c'est une abréviation interne. C'est-à-dire qu'on ne garde, je vous ai mis l'exemple avec Jésus, on ne garde que là où les premières lettres du mot et là où les dernières lettres du mot. Donc dans Jésus, on garde la première lettre, iota, et la dernière lettre, le sigma. Et ces nomina sacra sont signalés dans les textes par une surligne. Alors vous voyez que dans notre texte, on en a un certain nombre, hein, Jérusalem, Jésus, peu Christos, peu Christos, qui est pour peu Christos, avec ce quasi jeu de mots, puisque Christos, qui veut dire loin, est synonyme en grec, ça se prononce de la même façon, est synonyme de Christos, qui veut dire bon. Ensuite, vous avez Joeis, le Seigneur, Pnouté, Dieu, David, etc. etc. Alors, pour situer cet ensemble de nomina sacra que nous donne notre codex, dans l'utilisation des nomina sacra en général, je vous mets ici une liste des mots qui ont fait l'objet de ce système d'abréviation en grec et par là même aussi en copte. Alors j'ai mis en rouge ceux qui se retrouvent dans notre codex. Alors la première série de mots tourne autour de Dieu. Donc évidemment Dieu, Théos, mais aussi le Père, Pater. Ensuite vous avez toute une série abondante de mots qui concernent Jésus. Alors évidemment, son nom, Jésus, abrégé, on l'a vu par Iota Sigma, mais aussi Christos, on l'a vu aussi, Kurios, le Seigneur, Huios, le Fils, Soter, le Sauveur, et aussi Anthropos, qui veut dire homme, mais dans l'expression Fils de l'homme, évidemment. Ensuite, vous avez l'Esprit Saint, hein, Pneuma, qui fait l'objet aussi d'une abréviation, Marie, Méter, la mère, et vous avez différents autres nomina sacra, Uranos, le ciel, Stauros, la croix, Israël, Jérusalem et David. Alors ce type d'abréviation interne est typique du christianisme et s'est développé avec la librairie chrétienne. Hein, voici une page d'un manuscrit. C'est un manuscrit qui fait partie de cette petite trouvaille dont je vous avais parlé, de manuscrits trouvés pas très loin de Giza et qui viennent du monastère d'Apa Jérémie. Et vous voyez, hein, je les ai marqués en rouge, tous les noms hein, sacrées qui ont fait l'objet de ce type d'abréviation. Hein. Au tout début, on a Otheos, ici, et puis ensuite, on a Jésus, Christus, Christos, pardon, Pneuma, l'esprit, etc., etc. Donc, ça s'est développé avec la librairie chrétienne, mais aussi dans les documents, on trouve l'usage de ces nomina sacra. Par exemple, voici une lettre écrite évidemment par un chrétien, et vous voyez que au tout début de la lettre, il s'adresse à son Seigneur, le Seigneur de son âme, un certain Paul. Et là, Seigneur n'est pas abrégé parce qu'il s'agit d'un homme, mais juste après, il est question de l'expression « salut dans le Seigneur ». Et là, Seigneur veut bien dire le Christ. Et donc, on va utiliser, pour Kurios, l'abréviation par interne que je vous ai montré tout à l'heure. Et de même, dans la conclusion, hein, nous espérons, nous souhaitons que ta réputation dure encore de nombreuses années, ô frère bien-aimé, en Dieu, hein, MTO, et vous voyez que Théos est écrit aussi avec le système des nomina sacra. Donc, dans les manuscrits, dans les documents, on trouve ces nomina sacra, et ces nomina sacra sont aussi omniprésents dans les inscriptions et les décors figurés comme ceux du monastère dont notre codex est censé provenir. Et je vous ai mis une peinture retrouvée à Bawit où on voit le Christ avec son nom, Jésus, peu Christos, donc Jésus Christ, qui est écrit avec le système des nomina sacra. Alors, pour revenir à notre codex, on a 11 nomina sacra parmi les plus utilisés en copte et aussi en grec. Ainsi, les deux nomina sacra les plus fréquents, puisque renvoyant au Christ et à Dieu, sont donnés d'abord en copte. On a Pejoeis, et donc ça c'est du copte, et Kurios, c'est du grec, et Pnouté, Dieu, en copte, et Otheos, en grec. Tandis que Anthropos, hein, qui veut dire l'homme, je vous l'ai dit tout à l'heure, et Soteros, sauveur, ne sont donnés qu'en grec, avec d'ailleurs une erreur sur l'abréviation d'Anthropos, qui devrait être non pas avec un oméga, mais avec un omicron. Les autres, qui sont tous des noms propres, sont identiques dans les deux langues, si ce n'est qu'en copte, on peut être amené à rajouter l'article, qui est évidemment différent de celui du grec. Par exemple, vous avez Jérusalem, Jésus, Jésus, David et Israël. Alors, on remarquera que pour Dieu, eh bien, sont données la forme grecque au nominatif et celle au génitif, donc théos et théou, pour montrer comment fonctionne la déclinaison des nomina sacra. Puisque je vous ai dit qu'on garde le début et la fin, et comme la fin, c'est la terminaison qui change selon les cas, il est évident que le nominatif ne sera pas le même que l'accusatif ou que le génitif. C'est pour ça que dans ce codex, on a mis un exemple de déclinaison en grec, puisque en copte, il n'y a pas de déclinaison. Alors, quand, en revanche, sauveur, lui, n'est donné qu'au génitif. Hein. Voilà. Alors, quant aux nomina sacra qui ne sont pas présents dans cette liste, eh bien, on remarquera qu'il s'agit surtout de noms communs, père, mère, fils, qui en copte ne font pas l'objet d'abréviations propres aux nomina sacra, hein, Peneiot, le père, en grec, en copte, pardon, Tmaou, la mère, Pechere, le fils, ne sont pas abrégés. En revanche, on peut s'étonner de l'absence de pneuma, l'esprit, d'autant plus qu'une prochaine section de notre codex porte un titre contenant justement l'abréviation de ce nomen sacrum. Il s'agit probablement d'un oubli. Et enfin, Stauros, la croix que les coptes utilisent telle qu'elle, est un nomen sacrum un peu plus compliqué. Hein, je l'ai mis ici. En tout cas, vous le voyez dans divers, c'est le dernier signe qui est à la fin de la première ligne. C'est un symbole, une séquence un peu particulière car elle combine une abréviation propre au nomina sacra et une espèce d'abréviation monogrammatique. Je reviendrai sur ce qu'on appelle les monogrammes dans quelques secondes. Et c'est peut-être pour cette raison, comme c'est un cas un peu plus compliqué, que ce nomen sacrum n'a pas été introduit dans cette liste qui s'adresse à des débutants. Alors la maîtrise des nomina sacra, du fait de leur omniprésence dans les textes, fait partie des compétences que doit acquérir quelqu'un qui apprend à lire et à écrire. Aussi, ne sera-t-on pas étonné que la documentation scolaire ait livré des exercices où l'élève apprend à écrire les nomina sacra. On n'a pas de manuel comme celui que je suis en train de vous présenter en grec qui donne la théorie des nomina sacra et des exemples, mais en revanche, on a un certain nombre d'exercices où les élèves s'appliquent à développer, à écrire ces nomina sacra. Je vais vous en montrer quelques-uns. Par exemple, cet ostracone qui a été trouvé à Gourna, où on a Jérusalem, qui est écrit deux fois, hein, avec ce système d'abréviation interne. De même, ici, vous le voyez, cet ostracone qui a été trouvé aussi sur la rive ouest de Thèbes, où on voit Jésus-Christ, hein, qui est abrégé plusieurs fois, alors avec la surligne, mais aussi sans la surligne. Et ce dernier exemple nous montre aussi les mêmes nomina sacra, Jésus, Christos, qui sont écrits juste après, comme vous le voyez, un alphabet sur une tablette. Mais il faut faire aussi attention au fait que d'autres types d'apprenants, comme on dit maintenant, s'exercent à maîtriser les nomina sacra, comme dans cette ostracone. Et j'aurai l'occasion d'y revenir lorsque je vous parlerai de la formation professionnelle, c'est-à-dire celle des copistes. Là, on n'est plus vraiment dans le domaine de l'école élémentaire, mais on est dans une autre ambiance. Alors, vous aurez peut-être noté que dans Théos, les deux dernières lettres sont fusionnées. C'est-à-dire, vous voyez qu'on a un omicron, l'article, et puis ensuite vous avez le θ et une espèce de sigma angulaire qui vient épouser la dernière aste du θ. Donc, en fait, les deux lettres sont fusionnées en ce qu'on appelle techniquement un monogramme. Or, la sous-section suivante est précisément consacrée au monogramme, c'est-à-dire à ces mots dont les lettres sont inscrites soit l'une dans l'autre, ce qu'on appelle des monogrammes blocs, et je vous en ai donné un exemple en haut avec le nom Anastasiou, le génitif d'Anastase, que je vous ai présenté à la fois sous la forme d'un monogramme bloc à gauche, mais les monogrammes peuvent aussi se présenter sous une autre forme, c'est-à-dire que les lettres sont disposées autour d'une croix, on appelle ça un monogramme cruciforme. Ici, ce sont deux monogrammes du premier type, donc des monogrammes blocs, qui sont donnés relatifs à deux mots qui vont ensemble, Sainte Marie. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, on a, si vous prenez le monogramme et que vous le décomposez, vous trouvez toutes les lettres qui composent et Agia, hein, la Sainte, et Maria, Marie. Hein, le Eta, le Gamma, le Alpha qui vient juste au-dessus, etc. Toutes les lettres y sont. Alors, on pourrait s'étonner que ce qui nous semble aujourd'hui une espèce de jeu graphique soit ici mis au rang des connaissances basiques qu'un élève qui apprend à lire et à écrire doit acquérir. Mais ça serait en fait sous-estimer le phénomène du monogramme. Les premiers monogrammes connus, en tout cas dans le monde grec, se rencontrent sur des monnaies grecques du 5e siècle avant Jésus-Christ et concernent les noms de ceux qui les ont frappés. Cette pratique, qui dure jusqu'à l'époque romaine, est revitalisée par le christianisme qui l'utilise pour ses plus fameux symboles, notamment ce qu'on appelle le christogramme et le storogramme. Le premier, d'ailleurs, a été rendu célèbre par l'épisode du rêve de Constantin qui, à la veille de la bataille du pont Milvius, qui en 312 va décider de son statut d'Auguste, eh bien, il voit apparaître un « qui », donc une croix, barrée d'un « ro », accompagnée du commentaire « par ce signe, tu vaincras ». Et je vous ai mis pour l'illustrer hein, une fameuse fresque de Raphaël et de son atelier hein, dans la salle de Constantin au Vatican, où vous voyez l'épisode avec... Alors, évidemment, ce n'est pas une croix portée par des anges qu'a vu Constantin, c'est ce que je vous ai mis là. Mais par contre, vous avez en grec « en tuto nika hein, »,« par ce signe tu vaincras », qui correspond effectivement au texte à la phrase que Constantin est censé avoir vue ou entendue. Et du coup, Constantin fera peindre ce signe sur les boucliers de ses soldats et gagnera la bataille qui lui donnera la victoire sur l'Occident contre Maxence et, dit-on, contribuera à sa conversion. Mais au-delà de ces combinaisons hein, qui acquièrent aussi valeur, comme ici, d'image symbolique et qu'exploitera le christianisme aussi bien à l'est qu'à l'ouest, et voici un exemple de monogramme latin, hein, Valentine Floreas Indeo, hein, avec au milieu justement le monogramme qui rassemble toutes les lettres de ce que je viens de vous lire. Une véritable, au-delà de ces combinaisons, hein, une véritable mode du monogramme se développe à partir du IVe siècle et touche tous les domaines de l'activité humaine. Tout ce que l'Empire compte d'aristocrates, de hauts fonctionnaires, de personnages importants, code leurs noms et leurs titres sous la forme de monogrammes qui se répandent sur des sceaux, sur des bagues, qui se répandent aussi sur des éléments décoratifs, architecturaux, dans le mobilier privé et liturgique. Je vous ai mis l'exemple d'une cuillère, par exemple, sur le manche duquel se trouve le nom du propriétaire de cette cuillère, hein, écrit en monogramme. Mais on le trouve aussi sur des amphores, sur des bouchons d'amphores. Et enfin, comme je vous l'ai dit, on retrouve ces monogrammes très souvent dans des livres, des documents, des inscriptions, au point qu'on peut parler du développement et du triomphe d'une véritable culture du monogramme. Culture qui, à la vie longue, puisqu'on continue à pratiquer les monogrammes, et je vous ai mis un exemple avec un éditeur moderne, Akert, qui continue à commercialiser ses livres avec son nom écrit sous la forme d'un monogramme. Alors, entre jeu de l'esprit et croyance en un pouvoir sacré de l'image, ces monogrammes participent à la fois du cryptage. Je peux vous dire, moi qui ai eu l'occasion de travailler sur des monogrammes, sur des cuillères, comme celle que je vous ai montrée, ben, quand on n'a pas le code, quand on ne sait pas la solution, ce n'est pas évident d'arriver à retrouver le mot qui se cache derrière un monogramme. Donc, ces monogrammes participent à la fois du cryptage et du symbole figuré, qui, par sa forme spécifique, est destiné à marquer les esprits pour être ensuite reconnu. Il relève de ce que les anglo-saxons appellent aujourd'hui la « graphicacy ». En français, on dira plutôt « littératie visuelle », autrement dit, la capacité de traiter, d'interpréter une information présentée sous la forme d'une image. Ce phénomène a été bien décrit par Simag dans une de ses lettres, où il parle de son en monogramme qui est plus propre à être saisi que lu. Et je trouve qu'il décrit bien là le phénomène cognitif qu'implique le monogramme. Autrement dit, on comprend un nom en monogramme sans vraiment le lire, hein, on le reconnaît sans en identifier réellement les différents constituants. Le monogramme constitue donc un mode d'écriture qu'il faut connaître hein, si l'on veut participer pleinement et de façon autonome à la culture écrite de la fin de l'Antiquité, surtout si l'on évolue hein, dans des milieux chrétiens et si l'on fait profession, on va dire, de lettré, hein, que l'on soit secrétaire, copiste, etc. Aussi trouve-t-on trace d'un apprentissage des monogrammes dans la documentation scolaire de l'Égypte byzantine. On a trouvé plusieurs exercices où des jeunes, ou peut-être des moins jeunes, apprennent à dominer hein, le monogramme. En voici un exemple avec cet ostracone. On voit en haut, au milieu de croix, etc., on voit un bout de monogramme. En voici deux autres qui sont peut-être plus significatifs. Hein, en bas, Alors vous voyez que l'écriture est vraiment l'écriture d'un débutant, et en bas, on a une tentative de création d'un monogramme avec un rho, un phi, un alpha, un omicron, un oméga, pardon. Et de même, à droite, vous avez les deux types de monogrammes dont je vous parlais, monogramme bloc et monogramme cruciforme. Et alors là, ces deux exemples sont encore plus intéressants. Alors je dois ces exemples et les photos que je vous montre à Jennifer Cromwell, qui est en train de publier avec la regrettée Raffaella Cribiore une série d'ostracas scolaires qui viennent de Thèbes Ouest. Et dans ces ostracas, eh bien, on trouve deux exemples d'exercices de monogramme, et celui de droite est particulièrement éloquent, puisqu'en fait, on a la solution qui nous est donnée, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit d'écrire le mot tribunos, tribun, en monogramme. Donc on a le mot tribunos qui nous est donné, et ensuite les tentatives, vous voyez, laborieuses de l'élève qui a essayé de mettre le mot tribunos sous la forme d'un monogramme. Alors pour revenir aux deux monogrammes de notre codex, eh bien, on ne sera pas étonné d'en retrouver des exemples dans chacun des deux monastères d'où ce codex est censé provenir. À Bawit, la Vierge est plusieurs fois représentée, et presque chaque fois, son nom est écrit sous la forme d'un double monogramme. Je dis double parce que vous avez vu qu'il y en a deux, il y a et Agia, hein, la Sainte, et Maria, Marie. La Sainte est écrite à gauche de la tête, et Marie est écrite à droite. Hein, vous le voyez ici, je vous ai mis les monogrammes tels qu'ils se présentent dans les manuscrits, dans notre manuscrit, pardon, et voici donc une peinture qui a été retrouvée par Jean Maspero dans les fouilles effectuées à Bawit et publiée en 1943. Mais on pourrait aussi montrer d'autres exemples, comme ici cette Vierge à l'enfant, entourée de Pierre et de Jean, où on retrouve là encore les mêmes monogrammes que dans la peinture précédente. C'est une peinture qui vient aussi de Bawit et que vous pouvez admirer au musée copte du Caire. Une autre peinture qui a été retrouvée à Bawit, où là, le monogramme est légèrement différent. Le gamma dans E Agia n'est pas sur la barre de droite, mais sur la barre de gauche. Et de même, le rho dans Maria n'est pas à droite, mais à gauche. Un dernier exemple d'une peinture représentant Marie avec les monogrammes, retrouvé là aussi à Bawit. Alors là, je vous ai montré des exemples de Bawit, mais à Saqqara, à Pa Jérémy, au monastère d'Apa Jérémy, aussi, quand la Vierge est représentée avec une légende, eh bien son nom est écrit avec les mêmes monogrammes qu'à Bawit. Voici, alors malheureusement, la photo est très mauvaise, mais on devine de part et d'autre de la tête les mêmes monogrammes que ceux que je viens de vous présenter. J'ai essayé de les grossir et de les comparer avec ceux de notre manuscrit. Alors ces rapprochements, malgré les quelques différences qu'il y a dans la forme des monogrammes, montrent une fois de plus que le contenu de notre codex s'inscrit parfaitement dans la culture écrite et visuelle de ces deux monastères jumeaux. Les murs de ces monastères, notamment celui de Bawit, sont d'ailleurs parsemés de monogrammes, hein, soit des noms de saints, soit des noms de visiteurs qui ont laissé leur nom sous la forme de monogrammes sur les murs, dont certains d'ailleurs s'apparentent à des exercices de virtuosité. Voilà un monogramme qui a été retrouvé à Bawit, et Jean Cléda, qui l'a publié, dit que c'est un monogramme complexe et n'a pas trouvé la solution. Effectivement, c'est complexe, mais il y a encore plus complexe, celui que Jean Maspero a retrouvé sur un mur, et en fait, il s'est rendu compte en l'étudiant que la personne qui a dessiné ce grand monogramme, en fait, a essayé de mettre sous la forme de monogramme les deux colonnes de noms qui sont juste au-dessus. Hein. Au-dessus, vous avez Agia Maria, Sainte Marie, Psautère, le Seigneur, Michael, Gabriel, le nom des archanges, Phib, qui est un nom de saint, Phoibamon, Dawit, David, Victor et Apollo. Eh bien, il a fusionné tous ces noms sous la forme d'un monogramme. Alors, ce qui suit la sous-section sur les monogrammes, dans notre codex, je dois dire, est assez mystérieux. À l'exception de la première entrée, c'est-à-dire Kai, Ké, en fait, Kai veut dire « et » en grec, hein, c'est un mot qui a été utilisé aussi en copte, et qui se prononçait « ké », et donc « ka » et « ké », en fait, ce sont deux variantes phonétiques et peut-être aussi graphiques du même mot. Pour le reste, j'avoue que je n'ai pas réussi à retrouver la logique de ces différentes entrées. Peut-être s'agit-il d'un pense-bête destiné à être développé et commenté à l'oral. En tout cas, je n'ai pas trouvé jusqu'ici la solution, mais je continue à chercher. Alors, après cette section, qu'on pourrait finalement intituler « mode d'écriture non linéaire » ou abrégé, hein, avec les abréviations internes, les nomina sacra, les monogrammes, alors je fais abstraction de la fin que je n'ai pas comprise, et après une lacune de 4 pages, eh bien, on passe à une section qui est encore plus étonnante que celle que je viens de vous présenter. Et peut-être aussi une des sections les plus intéressantes de notre codex. Alors, le titre de cette section, heureusement, nous est donné. Mutisme. Alors, c'est une section qui contient 237 entrées. Et je dois dire que le titre ne nous donne pas vraiment la solution de ce que de l'objectif, disons, de pédagogique de cette section, mutisme. Alors, Scott Bucking traduit par dumbnesses, qui en anglais peut avoir le sens de bêtise, et donne comme titre à cette section liste de mots pour la plupart privés de sens. Bon. Mpo, qui compose hein, le mot menet mpo, mpo, muet, est l'équivalent du grec kophos, qui signifie non seulement muet, mais aussi dépourvu de sens, obscur. Mais si, effectivement, beaucoup de mots de cette longue liste n'existent pas, d'autres, en revanche, sont des termes ou des séquences qui existent en copte. Et alors, je vous ai mis comme exemple la première colonne. Hein, vous voyez, elle commence par Mmenet. Mmenet, c'est l'article pluriel en copte, suivi du préfixe qui sert à former des mots abstraits. Ensuite, vous avez Temenet, qui est l'article singulier avec le même préfixe. Ensuite, vous avez Chojep, qui veut dire être de reste, laisser, abandonner, qui peut être aussi un nom reste. Vous avez Fcha, qui peut vouloir dire il commence, il se lève. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de mots qui ont un sens en copte. Alors pour comprendre cet exercice, eh bien, il nous faut regarder les mots qui le constituent de plus près. On constate qu'ils forment souvent des ensembles dans lesquels une lettre a été changée ou ajoutée, ou bien dans lesquels les mêmes lettres sont mises dans un ordre différent. Hein. Là, ce que j'ai encadré en bleu, vous voyez, il y a 3 lettres, et à la ligne suivante, vous avez les 3 mêmes lettres, mais qui sont données dans un ordre différent. Quelquefois, d'ailleurs, on peut être amené à ajouter, c'est le cas suivant, une lettre de plus. Et pareil, on s'amuse à permuter les lettres dans un sens ou dans un autre. Les enchaînements d'un mot à l'autre sont parfois moins évidents et paraissent laisser à la fantaisie de son auteur, qui progressant par association de lettres ou de sonorités. Alors, un exemple avec cette page du codex, vous avez tout d'abord 3 mots avec « ou » et « je ». Les deuxièmes et troisièmes étant, vous voyez, des anagrammes l'un de l'autre. Puis, vous avez 2 mots qui commencent par « que »,« kappa », eux aussi anagrammatiques. Puis, 7 mots commençant par « sigma », suivent 2 mots avec « je » et « le »,« jel ». Le second commençant par un sigma donne lieu à un autre mot commençant lui aussi par sigma, c'est tel tel, qui comporte un lambda et qui du coup va entraîner les mots suivants avec aussi des lambdas, quel quel, chez quel quel. Le dernier mot comportant la lettre chai, hein, che, provoque le suivant avec l'initiale qui comporte cette lettre, qui à son tour va donner le mot suivant, où on retrouve presque les mêmes lettres. Puis, après deux mots commençant par mu, hein, dont les trois dernières lettres sont mises dans un sens puis dans un autre, eh bien, deux mots avec lambda et kappa, dans un sens puis dans l'autre, le dernier se terminant par un xi, inaugure une série avec cette lettre, hein, les trois derniers mots de la colonne. Voyez un petit peu comment cette liste se constitue. On a l'impression que c'est vraiment par association de lettres. Parfois, c'est la nature même des mots et non leur sonorité qui justifie les séries. Par exemple, six mots commençant ou comportant un ori, he, provoque le mot grec hapax et haplos, qui commence aussi par un ori, qui marque l'aspiration, qui génère ensuite une série de mots grecs, ano, kato, kato, ano, et je ne comprends pas pourquoi les deux mots sont répétés. Bref, on le voit, ces séries s'enchaînent par association plus ou moins lâche. Mais quel est l'objectif de cette section? Alors, plusieurs pistes sont possibles. La première consisterait à y voir un exercice de prononciation. Beaucoup de mots sont des suites de consonnes difficiles à prononcer. Si vous arrivez à prononcer, par exemple, le dernier mot, bravo. Bon. Et qui nécessitent, pour être prononçable, l'adjonction en fait, d'une voyelle de soutien. Il n'y a que des consonnes, là. Voyelle de soutien. Voyelle qui, en copte, et j'aurai l'occasion d'y revenir, peut ne pas être signalée, mais qui, du coup, est remplacé par, ou signalé, disons, par une surligne sur la lettre qui suit. Et ici, dans notre codex, les surlignes sont quasiment toujours absentes, donc on ne sait pas où l'on doit mettre cette voyelle de soutien. Or, vous vous souvenez peut-être de ce texte de Quintilien que j'avais eu l'occasion de vous lire il y a 2 ans. Il ne sera pas préjudiciable d'exiger des enfants de cet âge, donc il s'agit d'enfants qui apprennent à lire et à écrire, d'exiger des enfants de cet âge pour que leur bouche soit plus déliée et leur langue mieux articulée, qu'ils débitent le plus vite possible des noms ou des vers d'une difficulté recherchée, formée d'un enchaînement de plusieurs syllabes qui se heurtent très durement entre elles et qui soient pour ainsi dire rocailleuses. Et il continue en disant, c'est ce que les Grecs appellent kalinoi. Kalinoi, ça veut dire les freins, hein, les freins du cheval. Précaution modeste, ajoute-t-il, mais faute de l'apprendre, on risque de nombreux défauts de prononciation que la persistance aggrave et rend incurables si on ne les élimine pas dès les premières années. Alors, j'avais eu l'occasion de vous parler de ces kalinoi, de ces freins sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir l'an prochain. Un des plus célèbres, c'est celui que je vous ai mis à l'écran, Knax Bictuptes Phlegmodrops, qui ne veut rien dire, absolument rien, mais qui combine toutes les lettres de l'alphabet. Le nom même de Kalinos, hein, qui désigne le mort entrant dans la bouche du cheval, et qui au sens figuré est ce qui empêche de parler, n'est pas si loin dans l'esprit du mot copte de cette section, hein, les mutismes. Mais si cette fonction pourrait être justifiée par de nombreux mots de notre liste, d'autres ne posent aucun problème de prononciation. Hein, pour reprendre ce que j'ai encadré, par exemple, Hakie, Jorès, Robol, Rapax, Raplos, Ano, Kato, Kato, Ano, sont des mots qui ne posent absolument aucun problème de lecture et de prononciation. Aussi, une deuxième piste serait-elle à explorer, et elle a été suggérée par Anne Boudor dans le compte-rendu qu'elle a fait du livre de Backing en 2013. Le maître soumettrait à sa classe des séries de mots étranges, la plupart fantômes, à charge pour l'élève d'identifier parmi eux ceux qui existent vraiment. Alors je pense en fait qu'une troisième solution est envisageable qui permettrait de réconcilier pour une part les deux précédentes. MPO, hein, qui rentre dans la composition du mot qui sert de titre à cette section, signifie « muet » et a comme autre équivalent grec, alors je vous ai parlé de kouphos, mais un autre équivalent grec est « aphonos ». « Aphonos », ça veut dire « sans son ». Or, d'après la terminologie grecque, le son d'une syllabe est justement la voyelle, hein, qui se dit en grec « phonéen », hein, vous retrouvez le mot, le même mot que l'on a dans « aphonos ». La voyelle, littéralement, ça veut dire la sonore, celle qui donne du son. Cela a été rendu en code par l'expression « les lettres qui ont du son hein, ». Donc une voyelle, ça se dit « les lettres qui ont du son hein, ». Je vous ai mis les mots en copte. Et de même, ben, par opposition aux consonnes, qui sont les lettres non vocales, les lettres sans son. Et cette terminologie, on la retrouve dans un traité extrêmement intéressant qui s'appelle « Le mystère des lettres grecques ». Je vous ai mis le texte. Hein, ce traité nous dit « Or, parmi celles-ci, c'est-à-dire les lettres mêmes, nous en trouvons sept qui sont vocales, à savoir alpha, iota, eta, ei, beta, iota, pardon, eta, iota, ou et o. On appelle ces lettres des voyelles. Le texte copte dit des lettres qui donnent du son, parce que chacune d'elles représente dans l'écriture une émission de voix. Il y a ensuite, parmi les lettres, 15 lettres non vocales, les consonnes, à savoir bêta, gamma, delta, zeta, etc., etc. Aussi, la question que je me pose, c'est de savoir si les mutismes, hein, les M-menet, M-po de cette section, ne désignent pas ici les syllabes sans voyelle. Autrement dit, les syllabes sans voix, d'où muette, ou plus généralement désignerait le phénomène hein, qui consiste à avoir une syllabe sans voyelle. On constate en effet que presque tous les mots comportent des suites de consonnes qui forment pourtant des syllabes. Or, et là je cite à nouveau Bentley Layton dans sa grammaire copte, or une propriété remarquable de la formation des syllabes coptes égyptiennes est que non seulement chaque voyelle, mais aussi chaque consonne peut avoir une fonction syllabique, c'est-à-dire qu'elle peut fonctionner comme l'apex, le pic de résonance d'une syllabe. Ce qui veut dire que les consonnes ayant une fonction syllabique sont précédées par ce qu'on appelle techniquement une résonance non phonémique qui précède l'articulation de la consonne. Cette résonance non phonémique n'a rien à voir avec la voyelle grecque ou même avec nos voyelles qui, elle, produit une résonance phonémique. Elle devait s'apparenter à une résonance infime. Malheureusement, nous n'avons pas d'enregistrement, donc c'est très difficile de savoir à quoi ça correspondait. Elle est normalement signalée, je vous l'ai dit, dans l'écriture par une surligne au-dessus de la consonne à valeur syllabique. Alors, prenons un exemple. Deux consonnes, to, nu. Eh bien, cela veut dire en copte « nous ». Pour prononcer, il faut bien qu'il y ait quelque chose. Eh bien, c'est ce que j'ai mis avec un petit « e » au-dessus. Et le fait qu'il faille rajouter cette résonance non phonémique, comme on l'appelle, eh bien, est signalé par le trait au-dessus de la seconde consonne. Cette surligne est une aide importante pour qui veut prononcer une suite de consonnes. Alors, je prends un autre exemple. Mper. Mper, ça sert à marquer la défense. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela en copte. Eh bien, Mper, je le prononce Mper parce que il y a ce trait au-dessus du mu et le trait au-dessus du rho qui explique, qui dit au lecteur, attention, il faut le prononcer Mper. Mper. Ça doit être prononcé plutôt comme ça. Très bon. Mais si vous enlevez les traits, les surlignes, eh bien, voici toutes les possibilités, et j'ai dû en oublier, de prononciation. Vous ne savez pas où mettre cette espèce de voyelle, enfin de résonance non phonémique. Et dans l'absolu, évidemment, on ne sait pas. C'est évidemment la connaissance du vocabulaire et de la morphologie copte qui permet de prononcer correctement un tel mot si d'aventure il est écrit sans surligne. Eh bien, je suis tenté de replacer l'exercice de notre codex dans le cadre phonétique que je viens d'esquisser. On relève en effet que la plupart des mots de cette section non seulement comportent de telles séquences consonantiques, hein, sans voyelles, comme je l'ai dit, mais encore que les surlignes en sont, mais surtout que les surlignes en sont absentes. Hein, j'ai déjà eu aussi l'occasion de le dire. Je subodore donc que l'exercice devait consister pour l'élève à replacer mentalement la surligne à sa bonne place, autrement dit, d'identifier les syllabes muettes, muettes pour reprendre le titre de notre section, ou dotées d'une résonance non phonémique pour utiliser le vocabulaire technique d'aujourd'hui, et ainsi de prononcer correctement le mot. C'est donc bien un exercice de prononciation qui était proposé à l'élève avec cette section et qui fait le pendant au syllabaire que nous avions quelques pages avant. Dans le syllabaire, l'élève apprenait à prononcer les syllabes dotées de voyelles, mais comme cet exercice de tradition grecque ne traitait pas des syllabes sans voyelles, puisque les syllabes sans voyelles sont inconnues du grec, alors qu'elles sont si fréquentes en copte, eh bien la section des mutismes offrait à l'élève le complément, on va dire, du syllabaire adapté à la spécificité phonétique, syllabique du copte. Alors, deux objections sont malgré tout à prendre en compte. La première est que plusieurs mots ne cadrent pas avec cette explication. Ce sont soit des mots constitués uniquement de voyelles, donc on a absolument le contraire de ce que je viens de dire. Hein, par exemple, cette colonne où vous avez aei, ai, ai, ao, ao, ai, etc., etc., où deux syllabes uniquement vocalifs se suivent et s'inversent à la ligne suivante. Donc, on a ces mots qui ne cadrent pas avec mon explication, mais on a aussi d'autres mots, comme les mots grecs, qui, eux, sont pourvus de voyelles et qui donc échappent à l'explication que j'ai tenté de développer. Mais je constate que ces séquences qui vont à l'encontre de mon explication se situent presque toutes dans les quatre dernières pages de cette section. Le rédacteur de cette liste s'est peut-être écarté dans un second temps de l'objectif premier de l'exercice en proposant des mots qui, au contraire de ceux des cinq premières pages, offraient aussi des syllabes toutes dotées de voyelles, ou mieux, des syllabes constituées seulement de voyelles. Le contraste entre les deux permettait peut-être de mieux mettre en valeur la particularité du système vocalique copte en montrant qu'il combinait les deux types de syllabes sans voyelles, comme le montrent les mots de la première partie de la section, et avec voyelles, ce qui le différenciait du système grec où toutes les syllabes sont dotées de voyelles, d'où la séquence des mots grecs à la fin de cette section. L'introduction de mots grecs qui étaient passés en copte était à même de faire sentir à l'élève les différences entre les deux langues, d'autant que le système de notation par la surligne des consonnes à valeur syllabique s'est pour une part développé par opposition au grec. Ces intrusions seraient donc non seulement voulues, mais à forte portée démonstrative. Alors l'autre objection est a priori plus difficile à surmonter. La plupart des mots n'existent pas en copte. Comment l'élève peut-il donc savoir où mettre le pic de résonance dans des syllabes constituant des mots qui n'existent pas? Mais en fait, la phonologie et la morphologie du copte donnent presque toujours, par analogie, la solution. Et par ailleurs, il est possible que l'exercice soit doublé d'un autre objectif qui consistait non seulement à prononcer ce qui était écrit selon les règles de la syllabation du copte, mais aussi en même temps de deviner les mots fantômes, soit parce qu'ils n'existent pas, soit parce que leur formation les rendait improbables en copte. Cet exercice aurait ainsi amené l'élève à se demander quelle prononciation, quelle réalisation phonétique pouvait avoir telle séquence écrite avec des syllabes contenant ou non des voyelles écrites, et en même temps attester sa connaissance du vocabulaire en reconnaissant les vrais mots de ceux qui ont une allure de vrais mots, mais n'en sont pas. Le but étant d'acquérir des réflexes lui permettant de distinguer ce qui est phonétiquement et morphologiquement possible dans sa langue de ce qui ne l'est pas. Je vais prendre un exemple. C'est un peu comme si, aujourd'hui, eh bien, on soumettait à un élève la suite suivante. Alors, je n'ose pas la prononcer, un chien, sien, eniek, enchi, etc., etc. Vous voyez que j'ai pris toutes les lettres du mot chien que j'ai mis dans un ordre différent. Il faudra que l'élève reconnaisse le seul mot qui ne soit pas fantôme, chien, mais aussi comprendre de lui-même pourquoi les séquences que j'ai mises en rouge ne sont pas possibles en français. Cette section du codex, quelle que soit la solution qu'on propose pour le comprendre, cette section du codex est en tout cas une première dans la documentation scolaire et nous apprend l'existence d'un exercice qui constitue une nouveauté par rapport à la tradition grecque. Sa mission était justement de compléter le syllabaire en affrontant le problème de l'accent et de la syllabation en copte, dont l'absence de voyelles écrites permet des séquences consonantiques à la fois plus variées mais aussi plus déconcertantes. Elle implique une méthode pédagogique originale tout en reposant sur des conceptions grammaticales dont malheureusement nous n'avons pas de traces en l'absence de traités anciens en la matière. Nous n'avons pas de traités de grammaire copte écrits par des coptes. Aussi mériterait-elle de la part des spécialistes de linguistique copte un examen plus approfondi que celui que je viens de vous proposer. Alors, l'élève, avec cet exercice, est arrivé à un niveau où il peut maintenant enrichir son vocabulaire de façon thématique à l'aide de listes de noms propres et de noms communs qui sont autant de supports à des commentaires encyclopédiques. Je redonne la parole à Quintilien, qui nous a toujours servi de guide en matière de pédagogie. Lorsque, selon l'usage, l'enfant aura commencé à écrire des noms, on ne se repentira pas d'avoir veillé à ce qu'il ne gaspille pas ses efforts avec des mots courants et qui se rencontrent au hasard. Dès l'abord, en effet, il faut apprendre par cœur le sens des mots un peu en retrait de l'usage courant, que les Grecs appellent glossaï, et à travers les premiers rudiments, atteindre, chemin faisant, à des connaissances qui, par la suite, exigeraient pour elles seules un temps particulier. Donc, apprendre du vocabulaire, pas le vocabulaire forcément de la vie de tous les jours, des mots compliqués, mais qui donnent la possibilité de commentaires encyclopédiques intéressants. Eh bien, c'est précisément ce qu'offrent les pages suivantes de notre codex, en prenant en compte l'inflexion qu'a apporté le christianisme et que rappelle bien Basile, dans ses grandes règles, hein, il est nécessaire aussi de donner aux élèves un enseignement lettré qui soit conforme à ce but, c'est-à-dire le but que se fixe la vie monastique, en sorte qu'ils utilisent les noms, les onomatas tirés des Écritures. Alors, bien, regardons ces listes. La première est une liste de pierres précieuses. Elle n'avait pas été identifiée par Scott Bucking. Elle se trouve dans la dernière colonne de la page 122. Donc vous voyez, elle commence par un titre, One Emme, pierre précieuse, et ensuite vous avez un certain nombre de noms. Alors ce sont tous des noms grecs que les Coptes ont réutilisés. Sardoine, topaze, agate, escarboucle, jaspe, chrysolite, béryl, émeraude. À la ligne 9, on a un mot difficile à identifier, il commence par un pi, mais ça peut être l'article copte, donc ça ne nous permet pas de comprendre vraiment ce qu'il y a après. Ensuite, saphir, cristal, améthyste. Ce catalogue de pierres n'a pas été choisi au hasard. Il reprend en fait la description qui est donnée dans l'Exode du pectoral du grand prêtre. Il y aura quatre rangées de pierres, l'une sardoine, topaze et émeraude, ce sera la première rangée. La deuxième rangée, escarboucle, saphir, jaspe. Alors, je vous ai mis les noms que l'on retrouve dans la liste de notre codex en rouge, et je vous ai mis d'ailleurs l'édition de cette colonne dans le coin inférieur droit de l'écran. Donc, la troisième rangée, ligurion, agate, améthyste, et la quatrième rangée, chrysolite, béryl et onyx. Elles auront des chatons d'or pour garniture. Les pierres correspondront au nom des fils d'Israël. Elles seront 12 comme leur nom. Elles seront gravées comme un sceau, chacune à son nom, puisqu'il y a 12 tribus. Alors, la version copte reprend le nom grec de chacune des pierres, donc il n'y a pas de différence de vocabulaire, de différence lexicale entre la Septante, donc la Bible en grec, et la version copte de la Septante. Entre notre codex et le texte de l'Exode, seul l'ordre des pierres diffère, de même que le cristal présent à la ligne 11 manque dans le passage de l'Exode, mais se retrouve, par exemple, dans un texte d'Isaïe, voici que je vais poser tes pierres sur des escarboucles et tes fondations sur des saphirs, je ferai tes créneaux de jaspe, tes portes de cristal et tous tes remparts en pierres précieuses. Donc, inversement, manque dans notre codex le ligurion, qui est une pierre non identifiée, et l'onyx de l'Exode. On s'attendrait à ce que l'une de ces deux pierres soit mentionnée à la ligne 9, où il y a justement une lacune, mais je dois dire que cela me paraît difficile. Alors, ce passage de l'Exode, qui est à l'origine de notre liste, a connu un immense succès. Il a influencé un passage de l'Apocalypse, de Jean. Les fondements de la muraille de la cité, c'est-à-dire la Jérusalem céleste, était orné de toutes sortes de pierres précieuses. Le premier fondement était en jaspe, le deuxième de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Et on retrouve la symbolique duodécimale dans ce texte aussi, et presque toutes les mêmes pierres que dans l'Exode ou dans notre liste. Le texte de l'Exode aussi a suscité tout un travail exégétique dont le plus célèbre est le Duodecim Gemmis, des 12 pierres ou des 12 gemmes d'Épiphane de Salamine, qui est une longue lettre qu'Épiphane écrivit en 394 à son ami Diodore, qui était évêque de tir, et où pour chaque pierre, il passe en revue ses variétés, ses lieux d'origine, ses vertus médicinales, magiques, et en propose une exégèse allégorique. Et cette œuvre, qui nous est parvenue sous la forme de trois abrégés grecs, d'une traduction latine, d'épitomées de fragments d'une traduction arménienne et d'une version géorgienne, bien cette œuvre a été aussi traduite en copte, ce qui montre que les coptes se sont intéressés à la symbolique des pierres. On a retrouvé des fragments saïdiques qui donnent une version copte de ce traité qui a été publié en 1934. Cette version, évidemment, n'a pu que stimuler l'intérêt philologique et exégétique pour le texte de l'Exode, et en témoigne une version du roman d'Alexandre conservée par un manuscrit du monastère blanc, aujourd'hui partagé entre la Bibliothèque nationale de France, la British Library et la Staatsbibliothek de Berlin, qui a été édité par Oscar von Lemm en 1903. J'avais eu l'occasion de vous présenter ce roman d'Alexandre il y a quelques années, et la partie concernant les pierres se trouve dans un épisode où Alexandre vient de prendre la cité des Lamites et prélève son butin, ce qui donne lieu à une énumération des pierres précieuses. Hein. Quand l'aube fut venue, le vieillard Éléazar fit porter un vêtement royal et tous les messagers qui étaient là, il les chargea de la sorte d'or, d'argent, de pierres précieuses. Et dans le texte copte, eh bien, on retrouve Nomé Emmé, hein, qui est le titre de notre section, donc des pierres précieuses de choix qu'on avait trouvées dans le palais en question, de sardoine, de topaz, de jaspe, d'onyx, d'agate, de ligurion, de chrysolite, de chrysoprase, d'améthyste. Et on retrouve hein, là 8 des 12 gemmes de l'Exode avec une pierre supplémentaire, hein, la chrysoprase, qui est une sorte de calcédoine qui contient, je crois, du nickel, et qui, une pierre verte, qui vient de l'Apocalypse. Alors avec cette première liste thématique, eh bien, l'élève non seulement enrichissait son vocabulaire, mais acquérait aussi les moyens de mieux comprendre le texte des Écritures. Hein. C'est donc à la fois une leçon de vocabulaire, en l'occurrence de vocabulaire grec, d'histoire naturelle, mais aussi d'exégèse du texte biblique auquel le maître invitait ses élèves à travers cette première série de mots. Alors la liste suivante s'intitule « Les vertus de l'Esprit-Saint ». Les vertus de l'Esprit-Saint, et on retrouve le mot pneuma, esprit, qui est écrit sous la forme d'un nomen sacrum. Hein, vous le voyez, pi, nu, alpha, avec la surligne au-dessus. Les vertus de l'Esprit-Saint, la foi, l'espérance, la charité, la paix, la virginité, la continence ou la tempérance, l'endurance, l'humilité, la bénignité, la longanimité, la pureté, la gentillesse. Nous avons déjà rencontré dans la liste des mots dissyllabiques les trois premières vertus ainsi que la cinquième. Nous avions vu que la triade foi, espérance, charité était empruntée à la première lettre aux Corinthiens, 13-13. Voilà. La foi, l'espérance, la charité. Mais du fait de son titre, cette page du codex dérive en fait pourrait dériver d'une autre source. Alors, selon Backing, il s'agirait d'une autre épître paulinienne, l'épître aux Galates, où en 5:22-23 se lit la liste des vertus considérées comme le fruit de l'Esprit Saint, ce qui correspondrait bien au titre de cette liste. Alors, je vous ai mis le texte en copte, le texte en grec et la version latine de Jérôme avec la traduction. Mais le fruit de l'esprit, c'est la charité, la joie, la paix, la longanimité, la gentillesse, la bonté, la fidélité. Alors là, on a le mot pistis qu'il faut prendre probablement dans un autre sens que foi, hein, ça traduit par fidélité, la bénignité et la continence. Mais les fruits de l'Esprit-Saint ne sont, dans le texte de l'Épître aux Galates, ne sont qu'au nombre de 9. Et seuls 7 correspondent à ceux de notre liste, ceux que je viens de mettre à l'instant en rouge. Et donc on peut se poser la question de savoir si notre liste dérive bien, comme le pense Bucking directement, de l'Épître aux Galates, ou s'il n'y a pas une autre source qui se cache derrière cette liste. La solution, vous l'aurez la semaine prochaine. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.